Merci beaucoup. En tout cas, je suis très, très heureux d'être avec vous ce matin pour vous dire un petit peu, vous resituer ce qu'est le Haut Conseil de l'éducation artistique, puisque je ne sais pas si vous le connaissez plus particulièrement. La vocation du Haut Conseil, qui a été créée en 2005 par le ministre de la Culture et le ministre de l'Éducation nationale, était d'avoir un lieu de réflexion et un lieu de débat sur les politiques d'éducation artistique, dans la mesure où, si beaucoup de choses existaient... Et Dieu sait si beaucoup de choses existent et existent encore. On n'en avait pas nécessairement au niveau des administrations centrales une connaissance assez précise. Et on avait besoin d'un lieu de réflexion aussi, de prospective, pour penser des politiques à venir. Et la vocation donc de ce Haut Conseil-là a été celle-ci, c'est-à-dire d'avoir non seulement une meilleure connaissance du terrain et d'être un petit peu un observateur, en fait... des projets d'éducation artistique qui ont pu se mettre en place en partenariat, d'être un facilitateur aussi entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture, qui, si au niveau local, l'un et l'autre peuvent avoir l'habitude de travailler ensemble, les rapports entre les administrations au niveau central sont parfois complexes, voire même conflictuels. Et en même temps, oui, je vous le cache pas, d'ailleurs, vraiment parfois très très conflictuels, et en même temps, voilà, d'être un petit peu dans une logique de voir ce qu'on peut amener, ce qu'on peut avancer, quelles sont des politiques cohérentes qu'on peut mettre en place. Et ça a été pour ça, nous avons été en tout cas un acteur un peu clé dans la mise en place de cet enseignement d'histoire des arts, puisque si c'était un projet qui a été porté notamment par Pierre Baquet, que je crois que vous avez vu hier depuis très longtemps, il a fallu jouer justement ce rôle de facilitateur entre des traditions scolaires qui ne correspondaient pas nécessairement aux attentes des conservateurs du patrimoine, et aussi entre ces traditions scolaires-là et le monde des universitaires et des historiens de l'art, qui précisément s'était senti très exclu longtemps des processus scolaires, puisque n'ayant pas d'agrégation, ils avaient vécu dans cette espèce de mythe très lié à l'époque de Chastel. Ils avaient un peu vécu la mise en place de l'agrégation des arts plastiques comme un affront personnel, et c'était un peu bloqué et crispé sur cette position-là. Voilà. Donc je ne me m'étends pas plus avant sur ce sujet-là, mais c'est pour vous dire que on a vraiment essayé de faire en sorte que cette réforme puisse aboutir et que cette réforme soit portée par chacun d'entre vous et s'appuie aussi sur vos compétences, sur les choses que vous avez sues et continuer à mettre en place. Alors mon propos est un peu va être très décalé par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, puisque mon approche est un peu plus théorique. J'espère que vous me pardonnerez cette analyse, mais en tout cas pour essayer de voir un petit peu dans cette période qui est la nôtre, ce que voudrait dire la construction d'une culture européenne et ce que veut dire la formation d'un goût commun. Vous avez parlé d'identité tout à l'heure, et d'identité au niveau local, notamment, de créer, de répondre à ce besoin de créer une identité ou un attachement local ou patrimonial. Et s'il est aujourd'hui une question qui taraude particulièrement les Européens que nous sommes, c'est précisément celle de l'identité. C'est un débat qui s'est fait particulièrement vif, je pense que vous vous en rappelez tous, au moment du traité constitutionnel et du débat sur le traité constitutionnel en 2005, avec d'une part des racines grecques de l'Europe qui paraissaient évidentes et qui ont été posées comme telles, et un conflit aussi qui portait particulièrement sur les racines chrétiennes, qui, du fait de notre tradition laïque, posait un problème dans notre système républicain. Et elle s'est ravivée récemment et a pris toute son ampleur, très clairement, avec la crise économique. C'est-à-dire que la notion d'identité, ce problème d'identité-là, nous est revenu un petit peu comme un boomerang. Alors, on a vu en Allemagne, par exemple, la chancelière Angela Merkel proclamer la mort du multikulti. C'était assez récent. On a vu des débats qui ont eu lieu de manière particulièrement frappante en France sur la notion d'identité nationale, qui ont été des débats, là aussi, qui ont été sujets quand même à caution et qui ont été complexes dans leur tenue et qui paraissaient venir comme un cheveu sur la soupe, mais qui pourtant répondaient peut-être, en tout cas, et je ne me fais aucunement le porte porte-parole de quelques ministères que ce soit, qui paraissait en tout cas venir d'une demande ou d'un besoin de réflexion sur cette identité-là. Donc l'identité s'impose, en tout cas au niveau européen, comme un problème politique, et parce qu'il est politique, comme un enjeu culturel. Et c'est pas pour la construction européenne, en tout cas, une question qui est vraiment nouvelle. Elle lui semble, pour ainsi dire, consubstantielle, presque inscrite dans ses gènes, jusque dans sa devise, d'ailleurs, précisément, puisque la devise de l'Europe, c'est quand même « unie dans sa diversité ». Son nom même, ou plus exactement, en tout cas, le mythe, à l'origine de son étoffe culturelle commune, interroge l'identité de ceux qui la fondent et de ceux qui l'habitent. L'enlèvement d'Europe, précisément, et, si l'on suit bien Ovid et ses métamorphoses, affaire de faux-semblants et de paternité douteuse. Il est d'abord question d'un ravissement par un travestissement, et le moment où Zeus enlève Europe, métamorphosée en taureau, est bien une affaire de séduction, et impose à Europe un départ précipité qu'elle n'a pas vraiment désiré, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi l'histoire d'une fondation forcée, puisque, en fait, vous remettre un petit peu dans ce mythe, quand Zeus séduit Europe, il l'emmène sous la forme d'un taureau, elle grimpe sur son dos, il l'emmène de force à travers la mer, et c'est arrivé en Crète qu'il lui apparaît dans sa forme humaine, en tout cas dans une forme humaine. Et de cette union entre Zeus et Europe, il y a cette fondation forcée, c'est-à-dire qu'elle se doit d'épouser Astérion, le roi de Crète, après avoir donné naissance à 3 enfants, fruit de ses amours avec Zeus, notamment Minos, qui deviendra ensuite ce fameux roi de Crète dans la mythologie grecque. Et le reste du mythe d'Europe est aussi une affaire d'errance. On l'oublie souvent, c'est la deuxième partie du mythe, c'est que ces 3 frères, partis à sa recherche, fondent pour l'un Thèbes, ou donneront leur nom à la Cilicie pour l'un et à la Phénicie pour l'autre. Donc en même temps qu'une genèse et une généalogie divine, les Grecs et les Romains donneront à cette construction mythique d'un empire européen une culture sous un double aspect, dans un mouvement double, l'Europe se fonde en même temps qu'elle se déracine, puisque précisément Europe n'est pas originaire de Crète, mais Europe donne naissance à des rois de Crète. Voilà. Et au-delà du mythe originel, le questionnement de l'identité de l'Europe d'une part, comme un ensemble culturel cohérent, et celle des Européens, d'autre part, comme ceux qui habitent cette maison, se rattache à ce qui fait sens pour une communauté spécifique et s'inscrit dans une histoire qu'on suppose collective, tout en s'appuyant sur des valeurs dont on est convaincu qu'elles sont universelles. Donc ça, c'est un petit peu ce à quoi je voudrais réfléchir avec vous ce matin. C'est un petit peu de savoir jusqu'à quel point, finalement, le fait de poser cette construction d'une culture européenne dans le contexte qui est le nôtre, avec cette histoire des arts qui nous apporte un certain regard, de savoir jusqu'à quel point c'est pertinent. Et la question de l'identité culturelle, si tant est qu'elle a un sens, interroge donc ce qui est égal à soi-même, hein, l'identité, donc de ce rapport de soi à soi, ce qui va permettre de faire communauté, ce qui permet de faire de construire ensemble une identité, ce rapport de soi à soi pour ensuite s'exporter, s'étendre dans ce rapport de soi à l'autre. Et on y trace un lien intime entre ce qui relève de la culture au sens le plus large du terme, de la Bildung, comme diraient les Allemands, c'est-à-dire de l'éducation, de l'histoire partagée, des arts en général, et ce qui relève de la communauté politique, c'est-à-dire une définition d'un citoyen, du vivre ensemble, sous un toit commun et selon des lois partagées. Voilà un petit peu le socle sur lequel on part. Donc lier, en d'autres termes, la construction d'une culture européenne et la formation d'un goût commun, c'est présupposer que le goût partagé est à même de forger une identité, ce qui va absolument pas de soi, que ce goût se nourrit, puisque tel est là aussi notre sujet, d'une histoire et d'une fréquentation des œuvres d'art, dont on suppose le caractère, sinon universel, au moins partagé, et que cette histoire participe à une communauté en devenir, parce que se nourrir du passé nous projettera dans le présent et dans l'avenir. Donc l'histoire des arts européens serait-il un vecteur de résorption de ces paradoxes un petit peu constitutifs à l'Europe, qui est cette espèce d'ensemble continental qui a certes partagé des éléments historiques à une certaine période ensemble, mais qui en même temps nous paraît éclaté, nous paraît être le lieu d'un débat sur ces questions d'identité. C'est quand même une vaste tâche et une vaste responsabilité que de donner que de la confier, en tout cas, non seulement à un enseignement, mais en plus à cette fréquentation des œuvres. Est-ce que l'art, en tant que tel, est capable de forger une identité? Est-ce que nous sommes capables de partager un goût commun? Et est-ce que ce goût commun vient nourrir cette identité? Voilà, c'est un petit peu une question qu'on peut se poser. Et j'aimerais en fait interroger plus particulièrement la raison pour laquelle on attache autant d'importance et autant de valeur à cette histoire des arts et aux arts pour construire cette identité collective. Ça permet aussi peut-être éventuellement d'expliquer le malaise qu'on peut avoir avec un enseignement qui, au-delà de ces conditions matérielles et organisationnelles qui sont évidemment réelles, nous pose un malaise intellectuel parce que ça peut nous apparaître comme une espèce de couche superficielle pour essayer de redonner un sens à une époque où on ne voit pas très bien pourquoi on s'accrocherait à du patrimoine pour construire un sens commun. Et finalement, ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est cette idée que cette ambition elle-même s'enracine dans une vision double, dans une tradition intellectuelle qui n'est pas sans poser problème. Elle se réapproprie l'une des valeurs que nous saisissons comme fondamentalement européenne, que nous proclamons et qui est d'ailleurs inscrite en haut du traité constitutionnel, qui est finalement l'humanisme, cette valeur fondamentale qui doit venir nourrir la dimension politique, la citoyenneté. L'identité donc qui serait à double facette, et voilà, la question est de savoir si l'Europe a les moyens de ses ambitions. Donc à l'origine de l'histoire des arts, il y a sans aucun doute cette réaffirmation d'un humanisme comme horizon lointain, c'est-à-dire ce qui forge notre caractère d'homme, ce qui nous définit par rapport à l'animal et par rapport aux barbares. Ce qui renvoie aux humanitas pour l'Europe, depuis Cicéron, c'est, pour reprendre l'expression d'un philosophe allemand contemporain, Peter Sloterdijk, une télécommunication créatrice d'amitié utilisant le média de l'écrit. Bon, voilà pour la phrase un peu théorique. C'est-à-dire qu'au sein d'un groupe où s'échangent des traditions, des écrits du passé, plus exactement un patrimoine littéraire et culturel classique, l'émergence d'une société littéraire où l'on partage, dit-il, son amour commun pour les émetteurs qui nous inspirent. C'est un sentiment partagé de reconnaissance. C'est le rêve, dit-il encore, de la solidarité fatidique de ceux qui sont choisis pour pouvoir lire. Cela s'étend évidemment à tous les beaux-arts, comme l'a montré Bernard Darras, donc qui est un théoricien de l'art que vous connaissez sans doute. Les arts libéraux, ceux qui sont pratiqués par l'homme libre, c'est-à-dire par ceux qui n'ont pas besoin de travailler pour se nourrir, sont constitutifs de l'éducation des belles personnes et de l'éducation classique. Parallèlement à l'approche pratique appliquée des arts, on fait émerger, puis on renforce des approches théoriques, historiques, esthétiques, critiques, etc. Pour reprendre des mots d'ailleurs de Bernard Darras, un homme libre peut pratiquer le dessin s'il en maîtrise le dessin, c'est-à-dire l'objectif, le but, et s'il le fait pour une noble cause. Sa propre élévation, un cadeau à un ami, ou pour toute autre fin vertueuse. Donc cette idée de lien d'amitié, finalement, de lieu de partage, qui se penserait au sens de cette philia grecque, c'est-à-dire ce lien intellectuel qui lie les hommes entre eux dans un partage de connaissances, dans un échange et dans une transmission, c'est ce qui fait la communauté des humanités. Et il faut lire en ce sens, par exemple, le reproche que Lady Catherine formule à l'égard d'Elisabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés, parce qu'elle ne sait pas dessiner. Elisabeth Bennet, donc c'est l'héroïne de Jane Austen, rencontre cette fameuse aristocrate britannique qui voit d'un mauvais œil son neveu s'intéresser de près à cette jeune personne, qui ne vient pas particulièrement d'un milieu aristocrate anglais très distingué, et qui ne sait pas dessiner pour la simple et bonne raison que ses parents n'avaient pas les moyens d'enseigner le dessin à tout le monde. Donc sa sœur Jane dessine, elle ne dessine pas, et elle joue mal du piano. C'est-à-dire que finalement, dans cette logique de communauté des humanités, son éducation, sa culture n'est pas aboutie, et que donc elle ne fait pas partie de cette communauté et cette société. Et à l'aube du XIXe siècle, s'impose donc progressivement une distinction entre l'humaniste, qui lit les classiques et glose sur les œuvres d'art, et le reste des hommes qui se situent en dehors du cercle des amis. Mais cette amitié, si elle est parfois avare de transmission, témoigne aussi d'une potentialité fondamentale de constitution d'une communauté de citoyens. Et ça, c'est vraiment le tournant du XVIIIe siècle qui est assez fort et qu'il faut, je crois, avoir bien en tête. Parce que en même temps que naît, comme l'explique Foucault d'ailleurs, cette distinction entre l'homme civilisé, l'homme de la ville, et le laboureur, c'est-à-dire précisément celui qui n'a pas accès à cette culture-là, émerge aussi la prétention universelle de la culture par les humanités comme projet d'émancipation collective et comme moteur d'une société cosmopolitique. Vous parliez de Kant tout à l'heure. Je pense que Kant, pour le coup, est un moteur pour expliquer ça, mais je vais y revenir. Kant fait quitter la culture du monde restreint de l'aristocratie ou du domaine de la spontanéité comme développement non contrôlé pour lui donner une portée éducative où l'humanité a la possibilité de l'influencer par un arrachement par la liberté. C'est le fameux sapere aude de « Qu'est-ce que les Lumières ?» Ose savoir, ose apprendre à connaître, parce que c'est ça qui te retirera de ton état de barbare et qui te fera amener à cette société cosmopolitique. Et c'est ici que se joue précisément le double jeu de l'humanisme et ouvre la porte à son succès, c'est-à-dire à la fois ce lien d'amitié, ce lien intellectuel, ce lien fort, ce ciment collectif et cet outil d'émancipation. Et dans cet outil d'émancipation, les beaux-arts et les classiques forgent ainsi le cœur même de la communauté et l'identité du citoyen. C'est ici que la société littéraire et cultivée apparaîtra comme le modèle privilégié d'édification d'une identité collective. Et le jugement de goût lui-même n'est plus réduit à l'apanage d'un groupe spécifique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on partage ensemble des valeurs dans un petit groupe et des goûts spécifiques dans un petit groupe social que justement on pourrait créer ce ciment, cette émancipation collective. Donc il faut bien donner au jugement de goût une autre portée qui sera une portée universelle. C'est ce que fait Kant dans la critique de la faculté de juger, et c'est là la rupture fondamentale de Kant. Kant précisément, il dit que le beau, c'est ce qui plaît universellement et son concept, et qui relève du sens commun, c'est cette potentialité qu'identifie en chacun d'entre nous, en tout homme, du fait qu'il soit doté de cette faculté de juger, de cette capacité, par le jugement de goût, à émettre un raisonnement universel. Alors évidemment, c'est quand même assez complexe. Là, j'ouvre une parenthèse qui me paraît quand même importante. La critique de la faculté de juger relativement aux beaux-arts est assez intéressante dans la mesure où Kant ne prend absolument aucun exemple des beaux-arts. C'est-à-dire que le seul véritable exemple d'expérience esthétique qu'il prend, c'est le chant du rossignol dans le jardin, et quelqu'un qui imite le chant du rossignol, et il s'interroge précisément sur ce qu'il peut y avoir de beau dans cette situation-là. Et ce qu'il y a de beau, c'est finalement une capacité à coller à la nature. C'est-à-dire que finalement, c'est une forme de réconciliation entre ce qui pourrait nous caractériser en propre, entre cette dimension naturelle de laquelle nous sommes issus, et cette dimension artificielle sur laquelle on intervient, cette production, mais qui doit cacher les coutures, ne surtout pas montrer qu'elle est artificielle, et montrer au contraire une naturalité fondamentale. Et cette dimension-là, tout de même, permet justement de réconcilier un petit peu la philosophie avec les beaux-arts, qui ont globalement une méfiance naturelle vis-à-vis de tout ce qui relève de l'esthétique, précisément parce que ça ne se pense pas en termes de concept, et que on est toujours un petit peu embêté pour pouvoir décrire précisément des expériences de goût telles qu'on peut les éprouver. Vous en parliez tout à l'heure des problèmes de vocabulaire. Je pense que c'est même aussi plus loin, mais ça je je serais prêt à échanger avec vous sur le sujet, mais ça va encore plus loin, c'est même probablement lié aussi au fait que notre manière d'aborder la pensée est précisément rétive à ce genre de questions. Donc pour revenir à l'Europe, puisque l'Europe peut apparaître un peu lointaine dans cet horizon-là, faire de l'Europe un espace aux racines culturelles communes, c'est fondamentalement l'idée d'un grand récit, pour reprendre une expression de Tony Negri, d'un grand récit possible d'une part, et l'idée qu'il existe un corpus communis d'autre part, un corpus commun dans les deux sens du terme, c'est-à-dire un corpus de textes, un corpus d'images, un corpus d'histoires que l'on peut partager, et un corps commun au sens de corps politique, qui pour le coup, là aussi, est sujet à caution. Mais à l'heure de la Révolution française, l'humanisme des Lumières offre précisément cette opportunité-là, et les conditions sont réunies pour que s'impose un processus éducatif de transmission dans lequel les beaux-arts occupent une place décisive. Il ne faut pas oublier que les théories de l'éducation, même si elles commencent à se dessiner au XVIIe siècle, sont particulièrement fortes au XVIIIe, et que il faut pas sous-estimer l'Émile de Rousseau, qui clairement introduit justement cette nécessité-là d'émancipation individuelle qui donne lieu à une émancipation collective. C'est le mythe fondamental de l'humanisme moderne, et c'est celui de la culture européenne, que d'offrir par le savoir une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Voilà. Et dans ce grand récit, l'humanisme donnera pourtant d'autres grands récits, des fictions qui le placeront au cours du XIXe siècle au cœur de la nation. Et ça, c'est un petit peu l'analyse intéressante de Peter Sloterdijk sur le sujet. Peter, d'ailleurs, excusez-moi pour les germanistes qui sont dans la salle en allemand et laissent un peu à désirer, mais... C'est cette idée qu'en fait le mouvement du nationalisme et le mouvement justement d'émancipation collective par cette possibilité de grand récit n'est pas un mouvement contraire, c'est un mouvement paradoxal. C'est un mouvement qui se fait ensemble et qui se joue en même temps. Que dit Sloterdijk? Il dit « Que sont les nations, sinon des fictions efficaces, d'opinion publique lisant, qui deviendraient, par le biais des mêmes textes, une alliance d'amis partageant le même état d'esprit ?» Et la proposition peut d'emblée paraître suffisamment neutre pour donner assise précisément à l'émergence d'une culture européenne commune. Et ce fut, au cours du XIXe siècle, l'ambition d'ailleurs d'un Hugo et d'autres qui voyaient dans une jeunesse goethéenne, un petit peu dans cette idée de mythe d'une jeunesse qui a été un petit peu mise en valeur par Goethe. Je dirais que c'est quand même un problème allemand qui est très fort, cette question de la Bildung et cette question de la culture et de la formation, mais qui voyaient dans une jeunesse goethéenne l'avènement d'une Europe unie. Voilà, ça se joue dans ce processus-là, et il y a une espèce d'exaltation qui se joue là. Mais Sloterdijk ajoute « L'humanisme bourgeois, par sa substance, n'était rien d'autre que le pouvoir absolu d'imposer les classiques à la jeunesse et d'affirmer la validité universelle des lectures nationales. Et bien entendu aussi, la validité nationale des lectures universelles. » Donc c'est ici que se joue un nouveau tournant de ce que Sloterdijk appelle « cette ère du national-humanisme ». Cette idée que, oui, l'humanisme donne naissance à la nation, précisément par sa volonté de créer un ciment commun. Et l'humanisme, là, est très important dans ce cadre, parce qu'il s'est toujours pensé et construit par rapport à un contre-quoi. C'est toujours quelque chose qui se construit par rapport à autre chose. Et c'est là que la barbarie revient en force, parce que la barbarie a d'abord, dans la tradition de l'Antiquité, c'est d'abord quelque chose d'extérieur. C'est la caractéristique de ceux qui ne parlent ni latin ni grec. C'est ceux qui sont en dehors de l'Empire et qui ne parlent pas la langue. C'est-à-dire ceux avec lesquels on ne peut pas partager ce qu'on a dessiné ensuite comme quelque chose de fondamentalement politique, c'est-à-dire une communauté de langue. Et ce qui est à l'origine, par exemple, de l'édification de la nation française, c'est-à-dire précisément la langue et le partage d'une langue commune. Je passe sur les détails du fait que on punissait presque manu militari les gamins qui parlaient patois dans les cours d'école primaire au XIXe siècle. Ça a contribué aussi, dans l'école de Jules Ferry, ça a contribué aussi à former cette identité et ce ciment. Donc la barbarie a été extérieure. Elle a été intérieure aussi à une communauté politique. Le barbare était celui qui recherchait le divertissement de masse dans les amphithéâtres, par opposition à une culture lettrée, celle d'un Cicéron et celle de ses amis qui pouvaient échanger justement sur les textes grecs, pesée et fondée sur des réseaux d'échanges et d'amitié. Et elle était aussi intérieure à soi, face à cette part de soi-même qui, même chez le sage, éprouvait la tentation de céder au pain et au jeu. En d'autres termes, se joue dans l'humanisme une tension, celle entre notre bestialité, puisqu'il faut bien utiliser le terme, dit Sloterdijk, et la possibilité de l'apprivoiser. L'humanisme ne se contente donc pas de poser la question de savoir si la lecture et les beaux-arts nous cultivent et nous émancipent. Elle implique une anthropodicée, c'est-à-dire une détermination de l'être humain à l'égard de son ouverture biologique et de son ambivalence morale. Pour le dire autrement, et pour le dire plus clairement, par la question de l'humanisme, on cherche justement à se détacher de ce qu'on relève comme étant un penchant naturel à la bestialité, à la barbarie, au divertissement de masse, et on cherche justement à l'élévation, avec l'élévation, à construire quelque chose. Et cette ambivalence morale, c'est un petit peu le péché originel, si j'ose dire, de l'humanisme, lorsqu'il place les beaux-arts dans la perspective de la constitution d'une culture commune, à des fins politiques. Et il faut reconnaître que tirer l'homme de la barbarie fut en partie un échec, d'une part parce que l'individu qui pouvait par la culture accéder à l'émancipation s'est changé en ennemi. Ça, c'est un petit peu le tournant fort qui s'est construit avec ce que Sloterdijk appelle le national-humanisme. C'est cette idée que, précisément, le fondement, ce lien, ce ciment qui se joue dans l'identité collective, se traduit par l'identification d'un ennemi extérieur, c'est-à-dire en gros d'un collectif concurrent. Et ce collectif concurrent est vu comme une menace. Cette menace-là, elle donne lieu évidemment à deux guerres mondiales et nous pose un véritable problème par rapport au concept même d'humanisme. Est-ce que l'humanisme a encore un sens à partir du moment où il donne lieu à des concurrences qui sont aussi fortes en créant des ciments et des ciments qui sont comme ça nationaux. Et c'est une question que Georg Steiner aborde très clairement dans un texte que je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui s'appelle Le Château de Barbe Bleue et qui sont notes pour une redéfinition de la culture. Il rappelle que cette ambition de rationaliser les comportements par la fréquentation des œuvres d'art a pu parfaitement voisiner avec la barbarie. C'est-à-dire que précisément cette tension entre cette part de bestialité que nous avons en nous-mêmes et cette culture, cette fréquentation des œuvres d'art, cette élévation, elle s'est pas résorbée. Elle a été, au contraire, sinon au moins coexistante, peut-être corrélée. C'est la question fondamentale que pose Steiner. Et c'est l'origine, nous dit-il, d'un décentrement. On a parlé tout à l'heure de la question du problème de l'identité, de cette idée de l'Europe comme précisément un lieu d'exil, un lieu où on se fonde en partant de la périphérie et en partant de l'extérieur. C'est-à-dire que l'Europe et le fondement de l'Europe, c'est toujours de partir de l'extérieur. Après, avec l'humanisme, on a eu justement cette idée que les lettres, c'était notre patrimoine, et donc on partait d'un intérieur, un intérieur qui nous permettait de construire quelque chose ensemble. Les deux guerres mondiales, cette juxtaposition, cette idée que, pour les dire de manière assez crue, finalement Weimar n'est qu'à quelques kilomètres de Buchenwald, c'est l'origine d'un décentrement. Ça donne un décentrement. Je reprends là aussi les mots de Steiner. Rome n'est plus dans Rome. Et le fait de voir Rome via Weimar ne permet pas de sauver ce qui a été perdu. Donc il ne faut pas mésestimer cette question-là, parce qu'en fait, elle est absolument essentielle dans notre manière de percevoir la place de la culture et le fait de construire une culture commune en Europe. Ce décentrement ne signifie pas pour autant que cette culture commune a perdu sa pertinence. que cette tradition humaniste, que cette fréquentation des textes classiques a perdu de sa pertinence et de son intérêt. Mais ça pose un problème et un choc, et pour citer Steiner, que les rapports entre la culture et la société soient ressentis comme faussés, ou du moins paradoxaux et parodiques, est un fait nouveau et moralement déconcertant. Et d'insister surtout sur deux bouleversements auxquels la culture classique est soumise, celle de l'immédiateté, c'est-à-dire que, alors que la culture était d'une certaine manière une forme de lutte contre la mort, cette idée de construire un patrimoine qui s'inscrivait dans le temps et au-delà du temps, qui posait une permanence, elle a laissé place à ce qu'on a pu voir se développer à partir de la société de consommation de masse, à une immédiateté, au happening, au chatoiement, ce qui rend difficile de plus en plus la distinction entre culture savante et culture de masse. Donc l'humanisme a perdu, dans ce sens-là, son rôle moteur. Et cette idée de l'ennemi ou de l'étranger, qui était précisément le socle de la constitution d'une culture commune au niveau national, s'est transformée dans le rapport que nous entretenons culturellement avec l'étranger, où l'étranger ou l'ennemi ou le barbare a glissé vers le touriste. C'est-à-dire que c'est finalement l'autre nous renvoie notre propre patrimoine, ou plus exactement notre patrimoine nous est d'abord et avant tout renvoyé, non pas peut-être, c'est une hypothèse que je fais, mais j'espère qu'elle est pertinente, non pas par malheureusement une tradition éducative qui se trouve mêlée face à ces différentes cultures, avec ce brouillage de la culture savante et de la culture populaire, mais précisément par celui qui vient. L'autre qui vient chez nous et qui vient voir une ville-musée. Je ne sais pas si vous avez déjà traîné au moment des vacances scolaires dans les rues de Paris, mais c'est complètement fascinant de voir dans le métro ou dans les rues de Paris la réaction des touristes américains quand ils viennent en France. Paris, c'est Disneyland. Voilà. On vient voir un patrimoine et on vient, vis-à-vis de ce patrimoine-là, une histoire, une ville-lumière, on vient voir un musée. On va voir un musée et un lieu d'attraction. Et les gens sont toujours très étonnés de ne pas croiser des Parisiens avec un béret et une baguette sous le bras, ou de ne pas comprendre pourquoi est-ce que on n'est pas tous super gentils ou super bien habillés comme à l'époque de Voltaire. Je caricature volontairement, mais c'est pour vous dire à quel point finalement notre patrimoine, notre histoire commune, nous est d'abord et avant tout renvoyée par l'autre. La deuxième chose que pose Steiner, c'est que ce mouvement de décentrement s'est accompagné d'une immanence des valeurs qui fait que le clivage entre savoir et non-savoir n'est plus d'ordre hiérarchique. Et je pense que c'est un problème que vous connaissez particulièrement, vous qui êtes confronté bien plus que moi, justement à ce conflit que les élèves peuvent avoir entre la culture scolaire, leur héritage familial et ce qu'on appelle d'une manière un petit peu complexe, que les sociologues appellent notamment Hervé Glevarek, la culture jeune. Cette idée que, voilà, cette tension-là se joue à ce moment-là, et que le rapport hiérarchique qu'impliquait l'humanisme, il nous apparaît aujourd'hui pas nécessairement cohérent. Et de fait, la culture que T.S. Eliot posait non comme un ensemble d'activités parmi d'autres, mais précisément comme un mode de vie, comme un genre de vie, celui-là en Europe a pris conscience de sa fragilité. Et le tournant s'est fait à ce moment-là. Donc, le décentrement de ce programme, un petit peu de cette dimension un peu programmatique qui est propre au XVIIIe siècle et qui est ce toujours à quoi on se réfère, a contribué à brouiller la notion d'identité d'une culture européenne et d'un goût commun. Cette question, elle est encore plus flagrante aujourd'hui. Sloterdijk pousse même le diagnostic plus loin en montrant que les dernières résurgences de l'humanisme après 1945, que ce soit avec le personnalisme de Mounier, que ce soit avec des courants philosophiques comme celui-ci, que ce soit, à mon avis aussi, avec des courants de philosophie de l'éducation qui se sont mis en place dans les années 70, de cette volonté de voir l'élève comme quelqu'un qui est doté d'une autonomie, qui peut apprendre par lui-même, etc. Ces dernières résurgences de l'humanisme après 45 ne sont que des soubresauts face à l'arrivée d'un média de masse qui relègue les humanités au rang de sous-culture. C'est quand même violent. pour nous qui avons baigné et grandi dans cette et qui avons été formés dans cette tradition-là, c'est une chose assez violente. Nous n'avons plus besoin de lire pour créer du lien et former des cercles d'amis, puisque il y a des choses qu'ils font bien mieux que nous. La télévision le fait de manière beaucoup plus efficace. Les réseaux Internet aujourd'hui le font de manière beaucoup plus efficace. Et la fréquentation, le divertissement de masse le font de manière beaucoup plus efficace. Donc, l'heure n'est plus au conflit entre culture et contre-culture, qui était un petit peu ce qui sous-tendait l'analyse de Steiner dans les années 70, quand il a fait cette conférence, mais dans l'indistinction entre les médias, c'est-à-dire, pour reprendre encore Sloterdijk, les moyens de communication et de communion, par l'usage desquels les humains se cultivent, pour devenir ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils sont. Donc le problème politique nous semble alors évident, et resitué dans l'Europe, il l'est encore davantage. L'absence de marqueurs horizontal et vertical des différences rend difficile la question de l'identité d'une communauté. Parce que précisément l'identité s'est construite autour de cette notion d'exclusion. Exclusion intérieure, mais exclusion aussi extérieure. L'exclusion extérieure, elle nous a posé un certain nombre de problèmes, on essaie de la mettre entre parenthèses. L'exclusion intérieure de cette part de bestialité, on a l'impression justement qu'avec la fréquentation des divertissements et de la consommation de masse, on n'a pas vraiment réglé le problème et qu'au contraire, elle nous revient vraiment comme un boomerang. Pour le dire de manière un peu triviale. Mais si on peut éprouver une certaine nostalgie à l'égard un petit peu de ce projet humaniste, on ne peut pas en même temps céder à la tentation de vouloir rebâtir cette ambition. Mais comment ne pas voir d'une certaine manière l'histoire des arts, et là je parle vraiment, j'essaye d'interroger vraiment ce projet dans sa dimension politique, comme une nouvelle tentative un petit peu désespérée, la tentative de la dernière chance de remettre l'humanisme au goût du jour. Alors rassurez-vous, je ne le pense pas. Mais sinon, je crois que je ne serais pas là aujourd'hui et que je serais un peu déprimé. Mais il y a quand même cette idée, effectivement, que ce qui faisait ce qui jetait les bases d'une maison commune n'est plus là. Pour revenir aussi sur cette question des médias de masse. Et ce brouillage de frontières entre beaux-arts et culture populaire, je voudrais revenir un petit peu sur ce sujet-là, entre ce qui fait ciment par le travail, la réappropriation et l'échange entre soi et le divertissement. Yves Michaud a publié un texte il y a quelques années qui s'appelle « L'art à l'état gazeux » et qui pose parfaitement ce problème-là. Il est revenu il y a assez peu de temps dans une conférence qu'il a donnée à Rennes au mois de novembre sur ce brouillage-là et cette idée que finalement, culturellement, les choses se sont... Nos rapports à la culture ont changé. La relation qui se met en place avec la culture, nous dit Michaud, est une relation de divertissement et d'hédonisme, et pas d'exemplarité morale et politique. Donc déjà, d'une part, cette question de l'humanisme nous paraît problématique. La relation, deuxième point, du spectateur, usager, consommateur, dit-il, est une relation d'immersion dans des ambiances et des atmosphères synesthésiques. C'est-à-dire que c'est précisément la sensation qu'on va rechercher et le sentiment face à des productions culturelles avant d'avoir cette distance face à l'œuvre qu'on considère comme étant fondamentale dès qu'on se situe dans une distance théorique, critique ou historique. C'est-à-dire que la sensation est précisément notre premier rapport à l'art. Ça, c'est un mouvement qui s'est fait sentir très nettement sur le plan politique, dans les discours de Malraux et dans la politique du ministère de la Culture qui a été mise en place dans les années 60. La rencontre directe, immédiate avec l'œuvre, toute la théorie du choc esthétique, elle est fondée sur cette idée-là. Et il se trouve que ce mouvement s'est amplifié, et il s'est amplifié et a eu des conséquences sur le jugement de goût, puisqu'on en parlait, puisque j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le jugement de goût n'est pas construit nécessairement sur une mise à distance, sur une médiation, etc., mais justement sur une immédiateté et sur d'abord cette dimension sensible. Et le troisième point, c'est que la créativité au sein de cette culture et de ces formes d'art est individuel ou tribal, mais en tout cas non canonique. Or, précisément, ce qui distinguait l'humanisme du divertissement, c'était précisément son caractère canonique. L'idée qu'il y avait ce corpus communis intellectuel. Donc, la culture et l'art sont pratiqués, goûtés, produits au sein de réseaux spécifiques. Ils sont porteurs de marquages identitaires, certes, individuelles ou de groupes, mais qui sont beaucoup moins liées à cette dimension de communauté politique. Donc l'entre-soi n'a pas disparu. Si justement on avait la prétention à partir de l'humanisme de créer cette émancipation collective universelle cosmopolitique, c'est un peu raté. C'est-à-dire qu'on a au contraire aussi donné un socle à cette possibilité de se construire une identité communautaire. Mais aussi une identité individuelle. Donc c'est l'apanage des pratiques communautaires. Et l'humanisme, clairement, aujourd'hui, peut pas jouer dans la cour des grands au sens du divertissement de masse, c'est-à-dire toucher autant de gens qu'elle pouvait en avoir la prétention. Donc l'esthétique qui est mise avec l'esthésique, cette idée de sensation et d'ambiance, a aussi une conséquence. Michou insiste beaucoup là-dessus, c'est le bouleversement de la hiérarchie des arts. C'est-à-dire que on avait les arts libéraux d'une part et les arts mécaniques d'autre part. Cette idée que les arts appliqués c'était quelque chose de pas bien, que c'était quelque chose de qui n'élevait pas. Là au contraire, on a tendance à croiser les deux, à faire ce qu'on appelle de la customisation, à ne pas hésiter à faire du vintage, avoir la mode, avoir le design, avoir même la gastronomie comme une forme de pratique artistique et comme une forme de rapport à l'art. Donc, en revanche, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est intéressant et qui va me permettre de faire un lien avec ce qu'on a vu ce matin, Michaud considère que la place de l'architecture a fondamentalement changé et qu'au contraire, elle est redevenue au centre de nos préoccupations et au centre de nos fréquentations artistiques. Pourquoi lier ça à la question de l'identité? Parce que fondamentalement, l'architecture implique un lieu qu'on habite. C'est d'abord ça. La communauté politique impliquait aussi ça, c'est-à-dire le fait que nous étions et que nous sommes des habitants d'un même lieu. Et avec le rétrécissement de la distance, qui est ce qui caractérise aujourd'hui notre rapport à l'espace, en même temps que dans notre rapport au temps, nous avons une immédiateté, et ce rapport à l'immédiateté qui est aussi prégnant, l'architecture inscrit dans une certaine forme de continuité territoriale, justement, ces différentes strates et ces différentes couches d'une culture que nous pouvons éventuellement partager. Pour interroger un peu ça, je suis tombé il y a assez peu de temps, sur quelque chose qui m'a assez amusé, qui était un article d'un critique d'art britannique qui s'appelle Jonathan Jones, qui est aussi chroniqueur du Guardian, et qui sortait il y a peu de temps une tribune dans le Guardian, qui disait « L'Europe est dans nos pierres ». L'Europe est dans nos pierres, et il prenait l'exemple des cathédrales gothiques, et du fait que, quand on se promène dans les cloîtres de Gloucester, ou quand on voit la cathédrale de Canterbury, on se dit que entre la cathédrale de Reims, la cathédrale de Canterbury ou l'architecture de Prague, on n'est pas dans des environnements qui sont culturellement si distincts qu'ils en ont l'air. Que finalement, la cathédrale de Canterbury, elle a été pensée et construite par un architecte français, puisque c'est Guillaume de Sens, que les pierres venaient de Caen, et que cette architecture gothique s'est un petit peu dispersée partout en Europe. Donc la circulation des œuvres d'art, qui était un petit peu une théorie, qui est une théorie qu'on retrouve de manière assez forte et sur laquelle on avait voulu construire une identité collective, elle est plutôt là comme, non pas peut-être un passé structurel et structurant dans un projet politique en tant que tel, mais comme la strate d'un certain nombre d'identités, de pratiques culturelles qui nous caractérisent en propre, que nous croisons, que nous mélangeons, et qui finalement font aussi et créent aussi cette possibilité d'élaborer une culture européenne commune. Il reprend aussi ce mythe de l'enlèvement d'Europe, en rappelant que la toile du Titien sur l'enlèvement d'Europe avait été peinte à Venise à la demande du roi d'Espagne. Donc c'est aussi cette idée que, voilà, il y a cette circulation-là qui existe, et Jones va jusqu'à parler d'une communauté secrète culturelle qui existerait et que les politiques n'auraient pas compris. Alors voilà, avec l'idée de communauté secrète culturelle, Jones finalement remet au goût du jour cette idée de l'humanisme. Est-ce qu'elle est pertinente? À mon avis, il est nécessaire... Je vais répondre non pour deux raisons. D'abord parce qu'il est nécessaire de prendre acte du fait qu'il y a une immanence et une singularité des parcours culturels. Vous l'avez vu chez chacun de vos élèves, je suppose, en tout cas c'est à peu près ce que j'ai compris, puisque mon expérience n'est pas la vôtre, mais cet équilibre entre culture jeune, culture scolaire et héritage familial leur donne aussi la possibilité de se construire une culture autonome en propre. Et que parmi celles-là, la culture scolaire a une importance parce que elle aide aussi à remettre à distance et à remettre en perspective les différentes influences culturelles et différentes pratiques culturelles qu'ils peuvent avoir entre eux, chez eux, avec Internet ou sans Internet. Et donc, du fait de l'individualisation progressive et des réseaux au sein d'un espace où se mélangent plusieurs types de racines, ça l'est encore plus avec ces phénomènes justement d'immigration massive où on a voulu ériger des chocs civilisationnels. Je dirais plutôt que ce mélange des types de racines doit nous conduire à perdre aussi cette volonté de rechercher à tout prix une identité unique et une identité de penser l'identité européenne comme quelque chose de figé ou comme quelque chose d'universel ou comme quelque chose de permanent. Ça ne veut pas dire que la permanence n'existe pas. Ça veut dire que l'identité en tant que telle n'est pas permanente. Donc la question de l'identité est mal posée pour la question de l'Europe. Ça, c'est le diagnostic que pose encore une fois Sloterdijk dans un autre petit texte que je vous conseille tout particulièrement parce qu'il est vraiment séminal et est très intéressant pour ce sujet. Il s'intitule « Si l'Europe s'éveille ». Il avait été publié chez Marensel en français en 2002 ou 2003. Et Sloterdijk écrit à propos de la devise de l'Europe cette phrase suivante. « Cette formule vide selon laquelle l'Europe n'est pensable que comme l'unité de ses différences ou l'ensemble de ses contradictions prouve seulement que ce sous-continent extraordinaire continue à emprunter ses opinions sur lui-même à des étudiants en doctorat et à des commentateurs invités. » Dans le sillage de l'idéologie du vide, les orientations politiques sont remplacées par des problématiques capricieuses de l'identité. Ce sont souvent les profiteurs du vide, et notamment les artistes du deuxième ordre, qui tentent de prolonger le temps du rêve européen à l'aide de formules creuses visant à vanter la diversité et l'altérité. Bon. Voilà qui jette tout de même un gros pavé dans la mare et qui peut nous poser aussi aujourd'hui problème précisément face à ces questions de cultures différentes. Je pense que c'est intéressant pour nous aujourd'hui, pour l'histoire des arts, pour le sens que peut avoir cet enseignement, parce que les parcours artistiques personnels, les parcours artistiques qu'on peut créer aussi au sein d'une petite communauté qui est celle d'une classe, s'inscrivent aussi tout simplement dans une généalogie. C'est-à-dire que nous sommes le fruit, et nos parcours individuels sont le fruit de différentes origines, et que notre identité actuelle, notre identité d'aujourd'hui, se construit précisément sur des flux différents. Ça ne veut pas dire qu'on s'inscrit dans une espèce de mythe de l'altérité, ou dans une espèce de mythe des différences, c'est complètement différent, pour le coup. C'est vraiment cette idée que, individuellement comme individu, si vous me pardonnez la palissade, on se construit avec des interférences et on peut remonter ces interférences par des perspectives généalogiques. Et je crois que c'est ça que peut nous apporter l'histoire des arts aujourd'hui. Cette généalogie nous rattache à la permanence. Cette permanence qui est dans les lieux qu'on habite, cette permanence qui est dans les chefs-d'œuvre qu'on fréquente. Mais elle n'impose pas la permanence. Elle va à rebours, mais n'a pas pour prétention de s'imposer comme seule et unique lien communautaire. Elle ouvre une perspective sur des racines sans prendre racine, ni faire racine. Vous savez qu'il y avait cette polémique à la fin du 19e siècle qui était née, j'ouvre une parenthèse, à propos du livre de Maurice Barrès qui s'intitulait « Les déracinés » et qui a donné lieu à une politique qui justement interrogeait en fait cette question de l'identité, où il a voulu remettre sur la table cette question-là. Et Gide, qui était particulièrement peu... qui n'aimait particulièrement peu Barrès et qui aimait particulièrement peu cette théorie de déraciner d'identité, avait répondu par un mythe grec, pour le coup, dont il lui avait donné une autre étoffe dans un petit texte qui s'intitule « Le Prométhée mal enchaîné », et où, dans une lettre à un de ses amis, il expliquait qu'en fait ce texte-là était une réponse à Barrès. et que il disait la seule chose que finalement j'arrive à répondre à des gens comme ça qui prétendent insister sur cette idée de nation, sur cette idée qu'on est déraciné parce que soit on est soumis à des flux migratoires dont on ne maîtrise pas les dimensions culturelles, etc., soit parce que on est soumis à une perte de projet politique ou à une menace extérieure. Il répond, la seule chose que je peux répondre, c'est mon Prométhée. Cette idée que Prométhée, c'est précisément le voleur de feu, et donc celui qui offre cette possibilité de mettre à distance les choses et de construire ensemble quelque chose. En même temps, son Prométhée, c'est celui qui se fait dévorer le foie, puisque c'est ça qui l'intéresse d'abord, probablement par ces questions d'identité-là, et qui finit par s'en sortir simplement parce qu'il finit par tuer son aigle. Voilà. C'est cette idée-là, cette idée que peut-être il faut arriver à tuer l'aigle de la question de l'identité, non pas de l'identité elle-même, mais de la question de l'identité, et de tourner cette page. Parce que la spécificité de l'Europe qu'offre ce décentrement, et là c'est un écrivain néerlandais qui en parlait dans cette fameuse collection un petit peu de vision sur l'Europe, dont je ne me souviens pas du nom, mais c'est aussi une question qu'on retrouve très souvent chez Sloterdijk, finalement ce décentrement fait de l'Européen un juif errant. Et c'est pas plus mal. C'est-à-dire que un juif errant, c'est-à-dire cette idée que voilà, nous sommes finalement une forme de diaspora dans le lieu que nous habitons nous-mêmes, et c'est l'opportunité que nous offre ce décentrement, et que le projet politique européen qu'on peut construire dans cette optique-là doit pouvoir tout simplement s'appuyer aussi sur cette possibilité de circulation extraordinaire qu'on n'a jamais eue. Qu'on n'a jamais eu avant, cette possibilité de partage de culture et de croisement des cultures dont il faut savoir tenir compte, et voilà, de faire aboutir ensemble une possibilité d'aller de l'avant qui n'est pas nécessairement la recherche d'un nouvel ennemi extérieur, qui n'est pas nécessairement la recherche d'un nouveau barbare qui serait, je sais pas, le chinois ou l'africain qui ne serait pas rentré dans l'histoire ou le maghrébin, mais au contraire ou le turc, mais au contraire, justement, cette possibilité-là de faire émerger un espace où le projet commun est, dit Sloterdijk, de construire un post-empire, c'est-à-dire un endroit où on est capable de dépasser les conditions, finalement, d'émergence de notre propre espace commun, de notre sous-continent qui a donné lieu à ce que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu la conclusion à laquelle je souhaitais arriver.